Le cinéma québécois surpasse les méga-productions américaines au box-office cette année. Patrick Huard parle cinéma avec Paul Arcand.
Les rendez-vous du cinéma québécois auront lieu du 21 février au 3 mars, Cinémania. Et c'est Patrick Huard qui est le porte-parole cette année avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Là, je veux qu'on parle tout de suite, avant de parler de l'événement comme tel, d'une conférence que vous allez donner, une leçon de cinéma, la genèse d'un succès.
Ouais, en fait.
Ça s'appelle se mettre la pression sur les épaules.
Non, en fait, c'était une envie d'un peu faire du succès le centre de ce que j'ai à dire, moi, comme porte-parole. Parce qu'on me demande d'être porte-parole de l'événement, mais aussi d'avoir une vue, une vision sur notre cinéma. On m'a offert de donner une classe de cinéma. Et comme ça a été une année de succès cette année au cinéma québécois, j'avais envie qu'on en parle. J'ai envie qu'on parle de cinéma québécois de façon positive. Ça fait un moment aussi que je dis qu'il faut que nous, les artisans, qu'on arrête de se plaindre auprès des médias et du monde et de revendiquer. Ça, c'est notre job de faire ça dans les coulisses. C'est notre travail de faire ça. Nous, ce qu'on a à faire, c'est communiquer aux gens l'envie d'aller voir les films. Donc, c'est de ça que j'ai envie de parler. Et puis, j'ai envie aussi de démystifier le fait que c'est pas parce que t'as envie que beaucoup de gens voient ton film que ça vient avec des compromis artistiques, etc. C'est juste une façon différente de regarder la fabrication d'un film. Puis eux, ils m'ont demandé de faire ça parce que ils trouvaient rare que quelqu'un ait participé à toutes les étapes. T'sais, parce que j'étais au scénario, au tournage,
réalisation,
en post-production, et puis en production, puis la mise en marché. Fait que donc, j'ai été là pour toutes les étapes. La réalisation, c'est Alain Desrochers qui l'a fait.
Non, mais t'as déjà réalisé d'autres films, c'est ça?
Tout à fait. Mais comme Alain, quand on est arrivé pour faire la post-production, montage, etc., Alain était en tournage sur une télésérie, la télésérie sur la mafia montréalaise là, qui était faite en anglais.
Henri Zudo, le clan Rizzuto.
Oui, exactement. Super télésérie. Alain travaillait là-dessus en plein tournage. Donc, c'est un peu moi qui a pris le relais après pour certains bouts de la poste. Fait que j'avais les mains dedans de A à Z. Fait qu'ils se sont dit, c'est intéressant que quelqu'un puisse parler de l'ensemble de l'affaire au complet. Fait que c'est pour ça qu'on...
Parce que quand je vois ça, je me dis, bon, il va nous expliquer un peu comment faire un succès.
Ben, en fait, je vais expliquer comment on peut essayer de faire un succès, mais qu'il n'y a pas de recette, tu sais. Mais il y a quand même dans ça une façon de penser l'affaire dès le départ. C'est-à-dire que J'ai fait le film pour les gens. J'avais envie que les gens trippent en voyant le film. J'ai pensé à eux à toutes les étapes. Je vais raconter en détail quand on faisait des visionnements tests. On filmait la foule. Et puis après, on visionnait le film le lendemain avec le film sur un écran à gauche et la foule à droite.
Puis voir les réactions.
Puis pas uniquement les réactions au niveau de l'humour, mais aussi de l'engagement dans le film par rapport aux scènes d'action. Sont-ils trop longues? Est-ce qu'on les sent décrochés? Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils rient pendant les scènes d'action? Comment ça se passe? T'sais, quand est-ce qu'on les a? Quand est-ce qu'on les perd? Juste pour avoir un rythme où... parce que nous, t'sais, on a fait 26 semaines de montage. C'est facile d'être dans notre bulle puis de tomber en amour avec des affaires qui nous font triper nous, mais qui parlent pas à personne ou qui tombent dans le beurre. Puis... moi, je viens de l'humour, hein. Fait que sur scène, quand on fait de l'humour,
mais
des fois
t'as la réaction en direct, là.
Oui, mais on réattaque. Il y a une façon de réattaquer le rire. Quand le rire descend, il y a un moment où il faut attaquer avec le prochain gag. Puis des fois aussi, il faut pas perdre ce qui va se dire après parce que c'est une info importante. Fait que là, ça nous permettait de laisser les rires descendre pour vrai avec le montage puis réattaquer la prochaine ligne. Parce que notre premier montage, des fois, on avait tendance à trop resserrer certaines affaires. Puis les gens riaient, puis ils entendaient pas ce qui se disait après. Fait que c'est tous des détails comme ça. Il y en a plusieurs, là, mais c'est juste une vision différente.
Mais les films à succès sont-ils encore, j'allais dire, boudés ou en tout cas regardés un peu de travers dans le milieu du cinéma?
Je pense que oui.
Encore aujourd'hui?
Oui, je pense que oui. Pas tous les films à succès, mais c'est ça que j'ai envie de démystifier. Puis c'est de ça que j'ai envie de parler parce que cette année, au rendez-vous, il va y avoir beaucoup d'artisans qui sont là. Beaucoup de films ont connu du succès. 4 films ont fait plus de 2 millions au box-office cette année. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Plusieurs ont fait le million ou flirté avec le million. D'ailleurs, je déteste qu'on parle du box-office québécois en argent. Ça m'horripile.
Pourquoi on ne fait pas en entrée?
Ben, j'essaye. J'en parle. Là, ça fait c'est ma nouvelle marotte, ma nouvelle obsession. La difficulté vient à plusieurs niveaux. C'est niaiseux, mais ça vient à plusieurs niveaux. Plus difficile à calculer pour les propriétaires de salles.
Ben, s'ils sont capables de le faire en France, on devrait être capable de le faire, me semble.
Ben, c'est parce que les bureaux des statistiques sortent les stats 4 mois plus tard, à savoir ce box-office-là représente combien de personnes. Mais moi, j'aimerais que les films québécois soient calculés en entrée. Parce que, pareil, à titre d'exemple, Bon Cop, Bad Cop 1, le premier week-end, on a fait 1,2 million de box-office. Donc, on a principalement, là, c'était le film numéro 1 de toute la compétition. Mais le film qui était numéro 3, dont j'oublie le titre, c'est un film américain, lui a sorti un communiqué qui disait qu'il a fait mondialement 80 millions. Fait qu'on a l'air de...
D'une puce.
Ben oui, puis on a l'air de pas être si hot que ça. Alors que si on avait dit que le premier week-end, il y a autour de 125 000 personnes qui sont allées voir le film, ben visuellement, je pense que pour les gens, ça représente quelque chose. Là, on a un comparable. T'sais. On sait combien on est de population. Il y a 125 000 personnes en 3 jours qui sont allées le voir, mais il y a aussi l'appartenance. Moi, là, j'ai pas envie... T'sais, ça me stimule pas d'aller porter 10$ de plus dans les coffres d'une méga production américaine, mais je m'identifie à un groupe de personnes s'ils me ressemblent puis sont allés voir quelque chose, ben je me dis, ben on a ça en commun. C'est des gens qui vont au cinéma, c'est pas des portefeuilles.
Est-ce que tu crois, parce que ça existe beaucoup là, ce qu'on appelle des experts en scénario, des gens qui donnent des séminaires, des gens qui sont même embauchés, puis là je parle surtout aux États-Unis là, pour reprendre un scénario puis corriger le scénario, puis que bref, il y a comme une recette pour bâtir un succès.
C'est pas une recette.
Des techniques.
Mais c'est pas des techniques non plus.
Non.
Je ne crois pas à ça, mais je crois à aller chercher de l'expertise, pas pour faire un succès. Pour faire un meilleur scénario. Moi, j'avais quelqu'un avec moi Valérie Beaugrand-Champagne m'a accompagné pendant toute l'écriture du scénario, les 11 versions. Ensuite, c'était comme mon bounce. C'est elle qui me posait des questions, qui me challengeait sur certaines scènes. Est-ce que tu penses que ça se peut? Pourquoi ce personnage-là fait ça, etc.? Dans le but de faire un bon scénario et une bonne histoire. Parce que, à la base, ça prend ça pour faire un succès. Il faut que le scénario fonctionne, faut que les gens s'identifient, faut qu'ils embarquent. Ça, c'est la base. Mais, je suis allé chercher un de mes amis, Adam Perrault, pour revoir tous mes dialogues en anglais. Je suis allé chercher Biz pour écrire tous les sous-titres français des dialogues anglais parce qu'il maîtrise bien la langue québécoise, il l'écrit bien, puis il synthétisait bien en gardant l'humour, etc. Fait que moi, je crois à la collaboration, je crois à aller chercher des experts dans chacun des domaines d'un scénario, pas juste pour en faire un succès, pour en faire un bon scénario. Parce qu'un scénario, c'est pas une œuvre. Un scénario, c'est le plan de match pour faire un film. L'œuvre, c'est le film. Fait que moi, j'ai pas d'orgueil. Si on est 19, si ça finit qu'on est 19 pour écrire le scénario, il n'y a pas de problème. La seule affaire, c'est que moi, je dois être le gardien d'une certaine vision de cette affaire-là comme auteur principal. Mais moi, d'aller chercher, je trouve que d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait pas assez. Puis il y a peut-être pas assez d'experts, tu sais. Parce que, par exemple, il y a d'excellents dialoguistes, mais qui sont moins bons en structure. T'as des gens qui sont super bons en structure, puis les dialogues...
Font moins, là.
Ben, tout le monde parle un peu pareil, tu sais, parce que c'est une voix qui parle. C'est pas si simple que ça. Fait que moi, je crois à la collaboration, puis j'aimerais qu'on développe au Québec des experts dans chacun des domaines.
Un jour, je vais te rappeler une déclaration que t'as sans doute voulu oublier, là. En disant, en telle année, je serai à Hollywood, puis à telle année, je ferai des films.
Ouais.
Quand tu regardes le succès de Villeneuve, bon, on parle au niveau de la réalisation, de Jean-Marc Vallée, par exemple... Est-ce que
Philippe Falardeau
aussi, puis Xavier, on parle de même paquet là. Ouais. Mais est-ce que c'est un regret pour toi de pas avoir pu percer?
Non.
Pourquoi?
Je regrette ni d'avoir dit ça, ni de pas être là. Quand j'ai exprimé ça, j'ai verbalisé un rêve que j'avais quand j'avais 15, 16, 17 ans. Je l'ai verbalisé. J'ai jamais quitté ce rêve-là, puis je le quitterai pas non plus. Ça me fait faire des choses extraordinaires, la poursuite de ce rêve-là. Si j'étais joueur de hockey, puis que j'avais dit à 18 ans, 20 ans que je rêvais de gagner la Coupe Stanley, il y a personne qui m'aurait écœuré avec ça. Il y a personne qui aurait dit pour qui tu te prends. Fait que moi, ça s'adonne que ce que je fais dans la vie, la Coupe Stanley, quand je le percevais à l'époque, c'était ça. Et
Moi, je pense pas que les gens, en tout cas, voient ça comme quelqu'un qui pour qui tu te prends. C'est un rêve légitime. Tu joues au hockey, tu veux jouer dans la Ligue nationale.
Exact.
T'es acteur, tu vas aller au top de ce qui est disponible.
Exact. Mais ma vision a changé à certains égards par rapport à ça. Et là, pour des raisons que je m'explique pas, je comprends pas, parce que là, j'ai 49 ans, puis dans les dernières semaines, j'ai reçu des téléphones de gens à l'étranger pour des opportunités, puis bon, on va voir où ça mène. Je me sens aussi une responsabilité de mettre des photos dans l'album cinématographique québécois. C'est pour moi, la cinématographie québécoise, c'est un album. D'ailleurs, c'est ça qu'on va présenter là au rendez-vous. C'est un gros album de cette année. Qu'est-ce qui s'est fait tant en court-métrage, documentaire, long-métrage, etc. C'est une opportunité extraordinaire de regarder l'album 2017-2018. C'est merveilleux. Mais moi, je me sens une responsabilité de continuer à mettre des photos dans l'album. Il y en a qui les aiment pas, les photos, sont peut-être un peu croches. Je ne sais pas. Peut-être que dans 20 ans, on va regarder ça, on va dire, ça a vraiment pas de bon sens. Mais à chaque fois que je vois un film, je me dis tout le temps, c'est fabuleux de voir à quel point c'est un portrait qui bouge, qui vit avec des émotions de qui on était à ce moment-là. Puis ça, c'est valide pour tous les films, les bons comme les mauvais. On regarde un film, puis on se dit, tabarouette, c'est comme ça qu'on parlait, c'est ça qui nous préoccupait, c'était ça nos valeurs, c'est de même qu'on s'habillait, c'est ça la musique qu'on écoutait, c'est comme ça qu'on tournait. Et ça, pour moi, ça a une valeur, puis culturelle, mais je me sens une responsabilité aussi, parce que tout ce que je fais, moi, est financé par l'argent du monde. Tu sais, fait que c'est très difficile pour moi de pas créer les choses en pensant aux gens qui ont payé pour. C'est bien, bien dur.
Deux, trois questions d'actualité de cinéma. Ouais. Il y a ce film qui a pris l'affiche en fin de semaine, La Panthère noire,
ouais,
avec des vedettes noires, ouais, un casting noir, ouais, et qui a marché énormément, en tout cas pour le premier week-end.
Yes.
Ce qui fait dire que, puis là je parle pas juste du Québec, là, mais de façon plus générale, c'est qu'on est encore frilu dans les castings, qu'on n'ose pas trop. Que ce soit des minorités, que ce soit des... Puis j'entendais quelqu'un ce matin sur CNN dire où sont les handicapés dans les faits. Autrement dit, qu'on est rendu peut-être à... Que les producteurs sont plus frileux que le public.
Je ne pense pas ça.
Non.
Je ne pense pas ça. Mais je vais parler personnellement.
Oh, oui.
Mais je veux pas m'envoyer des fleurs non plus. Mais si vous regardez Taxi 22... vous allez voir que tout le long de la série, il y a des gens de tous les genres qui ont participé. Okay. Si vous regardez Traitement Choc, la série web que j'ai fait, il y a des gens de toutes les communautés. Moi, ça part d'un principe simple. Moi, je fais de l'humour. Et puis, je me suis toujours fait un devoir de rire de tout le monde égal. Parce que j'ai un de mes amis au secondaire, qui m'avait pris à part, qui était bègue et qui faisait partie de notre gang de chums. Puis à un moment donné, il m'a dit, pourquoi vous faites pas de jokes sur moi? Vous considérez que je suis handicapé ou pas égal? Puis ça m'avait fait beaucoup de peine. Fait que dès le lendemain, je me suis fait un devoir de commencer à l'écœurer puis à le baver comme les autres. Parce que je me suis rendu compte que la façon d'ostraciser les gens en humour, c'est de pas s'en moquer. Si tu t'en moques pas, c'est parce que t'es pas à l'aise, parce que t'as pas de tendresse ou de regard sur eux ou de critique sur eux, peu importe. Donc moi, je me suis toujours fait un devoir de ça. Ensuite, il y a plusieurs volets à cette grande question.
Ouais, ouais.
C'est bien qu'il y ait un film... C'est bien qu'il y ait un film de noir assumé, tout ça, c'est super important. Mais il faut aussi que ça devienne autre chose, éventuellement. Il faut aussi caster des gens qui tu sais, il y a un acteur dans la série This Is Us, un acteur black d'ailleurs qui a gagné des prix, et il a dit, la raison pour laquelle j'ai accepté de faire ce rôle-là, puis j'étais super content, c'est que la majorité de mes scènes, c'est pas à propos du fait que
non,
je suis noir.
On n'est pas dans les clichés, là.
Exact. Mm. Donc, il va falloir des fois... Ben, le meilleur exemple que je peux donner, c'est dans Bon Cop 2. Le rôle de Mariana Madza, je l'avais écrit pour un gars. Puis quand j'ai rencontré Mariana Madza...
Tu lui as dit, c'est un gars.
À Val-d'Or. Non, mais quand j'ai rencontré Mariana Madza à Val-d'Or, que je connaissais un peu, que j'avais même déjà engagé sur, à Libre TV, mais j'avais pas passé du temps avec elle. Puis je suis tombé en amour avec elle et je me suis dit... C'est elle, le personnage. Je suis retourné chez nous, j'ai réécrit tout le film, toutes les scènes pour elle. Et même quand elle est venue lire, elle ne savait pas encore que je l'avais écrit pour elle. J'attendais de voir si ça fonctionnait. Puis après, j'ai dit, ben, je l'écris pour toi. Il faut être capable de faire ça. Je pense que c'est la prochaine étape, c'est de se dire, c'est pas juste, je vais mettre quelqu'un d'une minorité, puis on va traiter du sujet de la minorité. C'est que je vais mettre ça, puis ça va tellement être naturel qu'on n'en parlera pas. T'sais, il ne sera pas que ça dans l'histoire. Mais l'autre problème qu'on a, par exemple, moi, je veux faire, je rêve de faire des bons rôles de femme. Mais ma plume est masculine. Comment je fais? Fait que là, j'essaie de trouver des bonnes auteures féminines pour venir m'aider sur mes projets, puis donner une voix aux femmes sur mes projets, parce que je me rends compte qu'à chaque fois que j'écris, ma plume, ma voix est très masculine. Fait qu'il y a ça aussi. Fait qu'on veut bien faire de la place, mais il faut que ces gens-là écrivent, il faut que ces gens-là produisent, il faut que ces gens-là réalisent.
Prennent leur place.
C'est exactement ça.
Patrick, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Dans un moment, un grand-papa fort sympathique.